l'association SOS Méditerranée. Bonjour Madame Gautreau. Vous m'entendez Madame Gautreau?
Oui, bonjour, bonjour. Pardon, je ne vous entends pas très bien, c'est très loin.
Approche-toi alors.
Alors, je m'approche.
On recommence. On va recommencer.
Ok.
4, 3, 2, 1, c'est parti.
Bonjour et bienvenue sur Radio Paul Saint-Fort. Aujourd'hui, nous avons une invitée très importante. Elle s'appelle Alice Gautreau et elle fait partie de l'équipage de l'Aquarius. Précisons que l'Aquarius est le bateau affrété par l'association SOS Méditerranée. Bonjour Madame Gautreau.
Bonjour.
Alors avant tout, nous vous remercions de bien vouloir répondre à nos questions. Et d'ailleurs, j'ai une première question à vous poser. Pouvez-vous nous préciser ce que fait exactement SOS Méditerranée ?
Alors, SOS Méditerranée, c'est une association citoyenne qui a été créée il y a 2 ans par un capitaine de marine marchande qui voulait aller porter sauvetage aux gens qui se noient au large de la Libye en essayant de regagner l'Europe.
D'accord, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire le métier d'infirmière ?
Alors, je ne suis pas infirmière, je suis sage-femme. Et qu'est-ce qui m'a donné envie ? Moi, j'aime beaucoup travailler avec des femmes, avec des filles, avec accompagner les femmes dans leur vie de femme, c'est-à-dire pendant leur grossesse, mais aussi pendant les choix de contraception, à travers leur sexualité, pendant toute leur vie de femme.
Alors, et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier à part ça? Et depuis combien de temps l'exercez-vous? Quand je redemande ce qui vous a donné envie, c'est aussi par rapport à vos études, par exemple. Je ne sais pas si je suis très claire. Désolée.
Par rapport à mes études, je ne comprends pas la question, pardon.
Alors, en fait, je vous demande ce qui vous a plu dans vos études, ce qui vous a plu et ce qui vous a encouragé à devenir infirmière.
Avez-vous toujours eu envie de le faire?
Et qu'est-ce qui me donne aujourd'hui envie de le faire?
Oui, c'est ça.
D'accord. Alors aujourd'hui, j'exerce mon métier avec une association humanitaire qui s'appelle Médecins sans frontières. Et ce qui me donne envie de faire mon métier, c'est d'aller aider les femmes qui sont dans des situations très précaires, qui ont besoin de soins, en fait, qui ont besoin de soins et qui n'ont pas forcément accès aux soins. Donc, par exemple, quand j'étais sur le navire, je rencontrais des dames qui n'avaient pas vu de médecin ou de sage-femme ou d'infirmière depuis des mois, voire des années. Et donc, c'était une façon pour eux d'avoir contact avec un personnel médical et faire un point sur leur santé.
Merci beaucoup.
D'accord. Alors, comment faire pour faire partie de cette association ?
Alors, pour faire partie de l'association, il faut avoir... pour faire partie de SOS Méditerranée, par exemple, il faut avoir des compétences plutôt maritimes et pouvoir savoir comment naviguer un bateau ou comment se comporter à bord d'un bateau. Mais il faut savoir que SOS Méditerranée, c'est une association qui fonctionne avec... quasiment uniquement des dons du public, et donc on a beaucoup de bénévoles qui ne sont pas à bord du bateau mais qui sont bien à terre pour nous aider à lever des fonds et permettre que le navire navigue. Le navire euros par jour.
Ah, pétard.
Ouais.
C'est énorme.
De quel... Oui, donc c'est un gros budget et donc on a vraiment besoin de bénévoles à terre pour nous aider à lever les fonds, à essayer de bouger les gens pour nous donner un petit peu d'argent. Et petit à petit, si chacun donne un petit peu d'argent, et bien on arrive à lever 11 000 euros par jour.
Eh bien.
De quel type de dons avez-vous besoin pour continuer à sauver des vies?
Quel type de gens? Eh bien,
quel type de dons?
On a besoin de gens qui viennent à bord du navire, mais surtout ce qu'on a besoin, c'est de gens à terre qui nous aident à lever des fonds parce que ça coûte très cher. Et comme ça, nous, on peut continuer à aller sur le bateau et on peut continuer à sauver des vies.
Excusez-moi, mais j'ai dit quel type de dons?
Pardon, quel type de
dons?
Est-ce que vous avez uniquement besoin d'argent en don ou est-ce qu'il vous faut aussi des vêtements, des médicaments, des choses comme ça?
Ah oui, non, on a besoin uniquement d'argent parce qu'après nous on achète en fait toutes les choses, on les achète localement en Italie parce que les gens qu'on ramène, on les ramène toujours en Italie. Et donc on fait tous nos achats localement et c'est vrai qu'on a beaucoup de... On a un gros bateau quand même et... Et le bateau en lui-même, c'est ça qui coûte le plus d'argent quand même.
D'accord. Et sinon, à part le bateau et les médicaments et tout ça, 11 000 euros, c'est quand même énorme. Est-ce que c'est uniquement pour ça ou est-ce qu'il y a d'autres usages auxquels on n'aurait pas pensé?
Ben oui, alors un bateau, ça coûte déjà très très cher à faire naviguer. Surtout que notre bateau, il est quand même assez grand. Il fait 77 mètres de long.
Ah oui.
Donc ça coûte beaucoup d'argent déjà, rien qu'en fuel par exemple, ça coûte beaucoup d'argent. Mais après ça coûte aussi pour payer les marins, donc on a une équipe de marins professionnels à bord qui s'occupe de faire naviguer le navire. Donc eux ils sont payés, ils ne sont pas bénévoles. On a aussi, après il faut aussi acheter tous les médicaments parce que les gens ils peuvent arriver dans des états vraiment critiques et donc on a besoin de médicaments très spécifiques et qui peuvent être très chers. Et aussi, on a toutes les installations pour les gens. On leur donne aussi tous des vêtements, par exemple. On leur donne tous à manger. Tout ça, c'est un coût aussi. Oui, c'est vrai qu'on arrive rapidement à 11 000 euros.
Combien de migrants accueillez-vous en moyenne sur le bateau?
Pardon, j'ai pas compris la question.
Combien de migrants accueillez-vous en moyenne sur le bateau?
Alors, depuis le début de l'Aquarius, on a accueilli près de 28 000 migrants, mais ça dépend un petit peu des départs de la Libye, donc il n'y a pas vraiment de moyenne. Il faut savoir qu'en été, quand il fait plus chaud, il y a plus de départs, et en hiver, il y a moins de départs, donc c'est un petit peu difficile à prévoir, mais il faut savoir qu'en deux ans, on a fait 28 000 sauvetages, et là, moi, quand j'étais à bord, par exemple, pendant mes 4 mois à bord, on a fait des sauvetages où on avait plus de 1000 migrants à la fois.
Et ils viennent d'où?
Alors, les gens, ils viennent, pour beaucoup, ils viennent de l'Afrique de l'Ouest, donc du Nigeria, de la Guinée, du Sénégal, du Mali, voilà, de ces pays-là. Il y a aussi pas mal de gens qui viennent d'Afrique de l'Est, comme l'Éthiopie ou l'Érythrée, ou aussi le Soudan. C'est tous des pays qui sont très instables politiquement. Soit il y a la guerre, soit il y a un dictateur en place, il y a des problèmes avec économiques, par exemple, et donc c'est pour ça qu'ils partent de leur pays. Et en fait, ils ont tous en commun qu'ils se retrouvent jusqu'en Libye, en fait. Ils traversent le Sahara et ils se retrouvent en Libye. Et leur objectif, c'est de fuir la Libye parce que la Libye, c'est un pays qui est très, très, très dangereux en ce moment. Et donc, ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils fuient la Libye.
Merci. Alors, comment atterrissent-ils sur l'eau?
Alors, comment ils atterrissent sur l'eau? Ça, c'est... ils payent beaucoup d'argent souvent à des passeurs. Bien sûr, c'est que des réseaux qui sont illégaux et donc du coup qui sont très 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 dangereux. Ils se retrouvent dans ces petits canaux. Alors je ne sais pas si vous avez vu des photos, mais c'est très très impressionnant. Hein, c'est des petits canaux de bateaux gonflables qui font à peu près 10 mètres de long. Et ils font environ entre 120 et 150 par bateau, alors que normalement, on devrait être au maximum à 40 sur un bateau comme ça.
Ah oui.
Donc voilà, c'est très impressionnant. Ils sont tous les uns sur les autres. Et si vous regardez un mètre carré, généralement, dans un mètre carré, ils arrivent à loger entre 6 et 10 personnes.
Ah oui, d'accord.
Mais comment on fait pour les repérer sur la mer?
Alors, on a des gens qui font la vigie, un petit peu comme dans Astérix avec les pirates, vous voyez.
Oui, oui, on voit.
En haut du bateau, et quelqu'un qui est en haut du bateau avec des jumelles et qui regarde la mer et puis qui va essayer de repérer ces petites embarcations. Ce n'est pas un travail facile du tout. Il faut vraiment avoir des yeux de lynx. Et aussi, des fois, les passeurs leur donnent un téléphone. Et un téléphone satellite, et c'est avec ce téléphone qu'ils font un appel de détresse au centre maritime de recherche et de secours.
Ah bon, bah je ne savais pas du tout ça.
Les naufragés sont-ils composés majoritairement de femmes ou d'hommes?
Alors les gens qu'on récupère, ils sont majoritairement c'est des hommes. Il y a environ 15% de femmes, mais parmi tous les gens qu'on récupère, ce qui est très très frappant, c'est que plus d'un quart sont des enfants qui ne sont pas accompagnés par leurs parents. Des jeunes gens qui ont entre 14 et 18 ans et qui voyagent tout seuls depuis le Sénégal, depuis la Guinée, depuis le Nigeria. Et qui se retrouvent tout seuls en Libye et enfin tout seuls en mer.
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la Libye. Et j'ai vu sur votre site une vidéo qui décrivait les conditions affreuses, ce qui arrivait aux gens qui se faisaient repêcher par les gardes-côtes libyens. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors oui, effectivement, les conditions de détention en Libye sont vraiment désastreuses. Les gens nous en témoignent à chaque fois qu'ils arrivent. Et c'est vrai qu'ils nous parlent aussi des conditions de redétention. Donc quand ils partent en mer et qu'au lieu d'être récupérés par un bateau ami comme le nôtre, ils sont récupérés par un bateau de garde-côte libyen et du coup ils sont ramenés en Libye. Ils sont ramenés dans ces camps de détention où ils sont affamés, on ne leur donne pas à manger, on ne leur donne pas à boire. Ils n'ont pas accès à des sanitaires, donc ils urinent et ils défèquent sur eux-mêmes. Ils sont tous entassés comme des sardines. Les conditions sont vraiment, vraiment très, très difficiles. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui meurent dans ces camps de détention et c'est très difficile à entendre.
Je vois. Et excuse-moi, Mali, vas-y.
Alors, que faites-vous de tous ces enfants après les avoir sauvés?
Alors les gens, les enfants comme les adultes, on les débarque tous en Italie. Et en Italie, on fait une passation avec les autorités italiennes. Et donc par exemple, les enfants, les mineurs non accompagnés, eux, ils vont être pris en charge de façon un petit peu différente. Ils vont être pris en charge par les autorités italiennes. Et théoriquement, ils ont droit à une protection particulière, justement, parce que ce sont des enfants.
D'accord.
Quel est le parcours du bateau?
Pardon?
Excusez-moi, quel est le parcours du bateau?
Quel est le drapeau du bateau?
Le parcours.
Le?
Parcours.
Le parcours.
Oui, désolé.
D'accord, le parcours du bateau. Alors le parcours, c'est notre port d'attache, c'est en Sicile, dans la ville qui s'appelle Catane. Et on part de Catane. Et on descend jusque dans les eaux internationales au large de la Libye. Donc on ne s'approche jamais trop près de la Libye. On reste toujours à environ une trentaine de kilomètres des côtes libyennes. Et on navigue en fait d'est en ouest au large de la Libye jusqu'à ce que nos vigies trouvent des bateaux et qu'on fasse des sauvetages. Et ensuite, on les ramène jusqu'en Italie. Et c'est les autorités italiennes à Rome qui nous disent où ramener les gens.
D'accord.
Quelle émotion ressentez-vous face aux situations des migrants?
Quelle émotion? Alors, ben, c'est, moi, je suis très en colère face à cette situation. Je trouve que en Europe, on est des pays riches. On est des pays qui ont aussi, historiquement, on a toujours accueilli beaucoup de gens. On dit que la France est une terre d'asile, par exemple. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, on a perdu notre tradition d'accueil. Et ça me rend très triste et ça me rend très en colère parce que c'est clairement un manque de compassion envers d'autres êtres humains qui souffrent et qui fuient une situation pour laquelle ils ne peuvent vraiment rien. Et donc voilà, ça me met vraiment en colère et c'est pour ça que je m'engage.
À ce propos, on a vu sur votre site, tout particulièrement Mani qui nous a fait remarquer ça, une phrase que vous avez dite qui disait « Vous qui refusez d'accueillir les migrants, pardon, je vais vous dire d'où ils viennent vraiment. Pouvez-vous nous expliquer d'où ils viennent et qu'est-ce que vous voulez dire par cette phrase ?»
Ben, alors oui, j'avais écrit cet article parce que je pense qu'on ne se rend pas compte en France des conditions desquelles ces gens arrivent. Donc, ils viennent, je vous ai parlé déjà des pays d'origine de ces gens-là, comme par exemple l'Érythrée, qui est un pays en guerre, qui est un pays qui est un dictatorat très 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 répressif, où il y a très très peu de liberté pour les gens. Il y a aussi le Nigeria, par exemple, un pays qui est très très inégalitaire, où il y a des gens très 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 riches, mais beaucoup beaucoup de gens très 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 pauvres, avec le groupe terroriste de Boko Haram qui sévit dans le nord du Nigeria et qui terrorise la population, qui pille, qui tue, qui viole les femmes. Donc c'est vraiment pas un environnement dans lequel on a envie de vivre. Mais aussi les conditions de détention en Libye, les conditions de vente d'esclaves. C'est comme au 19e siècle où on ramenait des esclaves en Amérique et qu'on les vendait, c'est exactement la même chose. Là, on vend des gens pour qu'ils travaillent dans des fermes et dans des usines en Libye contre aucune rémunération. Donc, c'est vraiment de l'esclavage. Et c'est ça que je voulais dire. Et c'est ça que j'avais envie de faire passer avec mon article. J'avais vraiment envie de montrer quelle était la situation de ces gens-là. Et pourquoi c'était très important qu'on les considère comme des êtres humains et des héros, des survivants qui ont réussi à échapper à l'enfer.
D'accord, merci.
Quels sont les obstacles que peut rencontrer la Croix-Rouge dans sa mission?
Les obstacles? Il n'y a eu pas énormément d'obstacles, j'ai envie de dire, jusqu'à présent, heureusement. Bien sûr, c'est un navire, donc on est en mer, et la mer, c'est jamais forcément très sûr. On a quelques détracteurs politiques, on ne fait pas plaisir à tout le monde, on est dans les gens. Il y a beaucoup de gens en Europe qui ne sont pas très contents de notre travail, donc ça fait partie d'un des obstacles, peut-être d'une certaine partie de l'opinion publique qui ne nous soutenait pas forcément. Mais j'essaie de ne pas me concentrer là-dessus parce qu'au final, je pense qu'on a beaucoup plus de soutien que de détracteurs. Et donc, on continue grâce à ça.
Mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne vous soutiennent pas? Enfin, je veux dire, vous remplissez quand même une cause humanitaire. C'est vraiment super bien ce que vous faites. Je ne comprends même pas qu'on puisse ne pas vous soutenir. Est-ce que vous connaissez les raisons de ces gens-là? Elles ne doivent pas être très intelligentes, mais ils peuvent moins en avoir.
Bah alors les raisons, c'est les raisons, c'est parce que on ramène ces gens-là en Europe et que il y a un climat en ce moment en Europe qui est très xénophobe. Vous connaissez ce mot, xénophobe? C'est on a peur de l'étranger, on est très raciste, on a peur de l'étranger, on a peur des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a un climat comme ça qui est assez xénophobe en ce moment en France et en Europe en règle générale. Et donc, ils ne veulent pas accueillir d'autres gens, en fait. Voilà. Ils disent qu'on en a suffisamment et qu'on n'a pas envie d'en avoir plus.
Merci. Alors, est-ce que certains migrants renouent dans leur pays? Retrouvent leur pays?
Est-ce qu'il y en a qui retournent dans leur pays?
Oui.
Alors là, je ne saurais pas répondre à cette question, parce que nous, on s'occupe vraiment du sauvetage. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui, après tous les périples par lesquels ils seront passés, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient envie de retourner dans leur pays. Bien sûr, ils sont attachés à leur pays. Hein. Il faut savoir qu'ils ont été forcés de partir d'une certaine manière, soit pour aller chercher de l'argent, ou soit pour aller chercher la paix, la sécurité. Mais quand même, on a toujours un amour pour notre village d'enfance, notre pays d'origine, la nourriture de notre pays d'où on vient, par exemple. Donc, il y aura toujours ça qui va les accompagner. Mais je pense qu'ils ont tellement travaillé, ils ont tellement souffert pour pouvoir arriver jusqu'en Europe que j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont envie de retourner chez eux après tout ça.
Quelle est l'ambiance sur le bateau?
L'ambiance sur le bateau, c'est une très bonne ambiance. Généralement, c'est un moment de joie puisqu'on vient de récupérer des gens qui étaient très très proches de la mort, qui ont eu très très peur pour eux, pour leurs enfants, pour leur famille. Et donc, soudainement, ils sont en sécurité. Donc, il y a quand même beaucoup de célébrations, beaucoup de joie. C'est relativement calme aussi parce que les gens ils sont fatigués donc ils se reposent. Voilà, et puis après entre nous dans l'équipage on s'entend tous très bien et on s'entraide, on a vraiment un vrai esprit d'équipe à bord donc c'est très agréable.
Je voudrais savoir combien de personnes composent l'équipage de votre bateau?
Alors, on est 30 personnes de l'équipage à bord du bateau, environ. Et on a 10 marins professionnels qui s'occupent de naviguer le bateau. Ensuite, on a une équipe de 10 marins sauveteurs qui s'occupent d'aller faire des sauvetages directement en contact des gens pour les sauver. Et ensuite, on a une équipe de médecins sans frontières dont je fais partie. Qui s'occupent des gens une fois qu'ils ont été rescapés et qui sont à bord avec des soins médicaux. Donc on est 4 médicaux à bord et le reste c'est aussi des gens qui s'occupent de la communication, des journalistes, de la logistique aussi, pour réparer des choses. Voilà, on a tous un petit rôle à bord.
Ok, oui. Est-ce que d'autres bateaux tels que l'Aquarius existent-ils?
Alors, l'Aquarius est le seul bateau qui vient d'une association française, mais l'été dernier, on était environ 10 navires d'associations diverses et variées, en majorité des associations européennes qui naviguaient, mais là, en ce moment, ils ne sont plus que deux en hiver. Donc, beaucoup des associations sont arrêtées pendant l'hiver.
D'accord. Nous, on n'avait jamais entendu parler de SOS Méditerranée. Pourtant, ce que vous faites est génial et ça mérite d'être connu par tout le monde. Alors, on aimerait savoir par quel moyen vous vous faites connaître parce que si on pouvait répondre à une nouvelle plus, ce serait bien, quoi.
Bah oui, alors on fait beaucoup de travail là-dessus. Par exemple, l'année dernière, SOS Méditerranée a été élue grande cause nationale par la France. Donc c'est un espèce de label que remet le gouvernement français. Donc on a eu beaucoup de spots radio et de spots même télévisuels à ce moment-là. Aussi, on fait beaucoup on est beaucoup sur les réseaux sociaux, donc si vous avez des réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre avec ça. On est sur Twitter, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on publie beaucoup là-dessus. On fait beaucoup d'interventions TV aussi, mais c'est vrai que notre cause a besoin d'être mieux connue, et c'est aussi beaucoup avec le bouche à oreille au final. Et donc, savoir que vous le savez, vous allez en parler à vos amis, vous allez en parler à vos parents, qui eux vont en parler à leurs amis, et donc... C'est comme ça aussi qu'on fait savoir les choses.
C'est vrai, ok.
Merci. Alors, je voudrais revenir sur les femmes que vous sauvez. Alors, comment ces femmes font-elles pour effectuer des chemins si longs? Comment ces femmes font-elles pour effectuer des chemins si longs?
Pour effectuer un chemin si long? C'est ça la question?
Comment ces femmes font-elles pour effectuer des chemins si longs?
Après tout, elles sont enceintes, donc on se demande comment c'est possible. Est-ce qu'elles ont des aides particulières? Parce que, en dehors des médecins, est-ce que les passeurs leur fournissent des moyens? Parce qu'elles sont enceintes, après tout.
Alors, elles ne sont pas toutes enceintes. Les femmes qu'on récupère, elles sont enceintes à environ 10%. Entre 10 et 20% des femmes sont enceintes. Donc, c'est loin d'être toutes qui sont enceintes. Mais c'est vrai que pour les femmes en particulier, c'est un voyage qui est très, très dangereux, un très long périple aussi. Elles se déplacent un peu comme le reste des hommes. La différence étant que, vu qu'elles sont moins fortes, généralement, quand elles sont vendues en esclavage en Libye, elles ne sont pas vendues pour aller travailler dans les fermes ou aller travailler dans les usines comme les hommes, mais elles sont vendues à des maisons closes et elles sont forcées à travailler comme prostituées.
Ah, d'accord.
C'est très difficile pour elles.
Eh bien, attendez, une dernière question.
Mais est-ce que vous n'êtes pas trop triste de laisser ces immigrés, voilà, en Italie et de repartir?
Mais oui, c'est une très bonne question. Oui, c'est toujours très difficile pour nous de leur dire au revoir et de les laisser de l'autre côté. On espère qu'on les amène vers une vie meilleure, donc c'est ça qui nous console. Mais c'est vrai que c'est pas facile de dire au revoir à ces gens-là.
Et je voulais vous demander où se trouve votre prochaine destination.
Alors, ma prochaine destination, c'est pas avec SOS Méditerranée, cette fois-ci, ça va être avec Médecins Sans Frontières. Et là, je pars au Congo et je pars la semaine prochaine.
Ok. Eh bien, on vous souhaite bonne chance pour votre mission et on vous félicite parce que franchement, on est impressionnés par tout ce que vous faites. Merci. C'est vraiment génial. Et il y a vraiment besoin d'associations humanitaires comme ça. Et on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Et on espère que grâce à notre émission, on pourra encore plus faire connaître SOS Méditerranée.
Merci beaucoup, merci de m'avoir interviewée, ça me fait très plaisir.
Et on s'excuse encore pour le début, on a confondu sage-femme et infirmière.